Guillermo est doctorant en littérature générale et comparée à la Sorbonne Nouvelle. Sa thèse est faite donc sous la direction de Tiphaine Samouyo et son travail porte sur la honte et la mémoire collective à partir des œuvres de Javier Cercas, Marguerite Duras, Philippe Roth et Christa Wolf. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Trans, de littérature générale et comparée, et il est co-organisateur du séminaire Hors-la-loi du Centre d'études et de recherches comparatistes, le CERC.
Merci. Je voulais d'abord vous remercier encore de me permettre de partager mes réflexions avec vous et m'excuser d'avance si jamais vous entendez des bruits ou des pleurs. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un bébé qui dort juste à côté. J'espère qu'il va me permettre de dérouler cette petite exposée de façon normale. En tout cas, merci encore. Et pour commencer à parler de Christa Wolf, je voudrais d'abord donner un petit peu de contexte historique. J'ai un petit PowerPoint que j'ai préparé, mais j'ai peur si je vous montre ça. Est-ce que vous me verrez toujours ou pas? C'est-à-dire, je vais essayer de partager l'écran.
Normalement, oui, si vous partagez l'écran, vous avez la possibilité de rester sur l'écran en parallèle.
D'accord, je n'ai jamais utilisé Zoom, donc je crois que. Attendez.
C'est sur le bouton Share Screen, vous partagez l'écran et
Là,
ensuite.
est-ce que vous voyez le portrait de Christa Wolf?
Non, pas
Non.
moi.
Moi, je vois. Ah
Bon? Ok,
d'accord. Comment ça marche?
je ne sais pas.
Donc, je ne sais pas ce que je. Attendez, si vous.
Il faut que tu passes en mosaïque, peut-être, Ève.
Mosaïque, moi?
Non, Ève.
Non, non, moi
Ah.
je suis en mosaïque, étrangement, je ne sais pas.
Moi,
Bon,
je
ce n'est
vois ma
pas grave, hein, si tout le
présentation.
monde voit, c'est le principal.
Qu'est-ce que
Ah
je vais faire
si,
avec?
maintenant je vois, je vois, je vois.
Ah, d'accord. OK. Alors, une femme portant une communauté. Si j'ai choisi ces sous-titres, c'est parce que pour moi, Christa Wolf représente, déjà le verbe porter a deux acceptions, un sens vieilli qui viendrait signifier subir et un autre qui parle de soutenir ou favoriser. Et ces deux sens qui sont a priori irréconciliables, pour moi, sont complémentaires dans la figure de Christa Wolf, qui a été l'écrivaine de son temps, qui a été la porte-parole de sa communauté. Qui a été une figure dépréciée publiquement, justement par rapport à cause de son engagement pour la liberté et pour la place qu'elle accorda aux voix discordantes à une époque au discours catégorique, et finalement aussi parce qu'elle a subi justement le poids de cette communauté qui lui a qui attaché ou qui a plutôt déclenché une campagne d'humiliation ou d'opprobre public contre elle. Comme je disais, je voudrais d'abord donner un petit peu de contexte historique. J'avais essayé d'expliquer ou de préparer mon exposé à partir des trois points qui sont une escission progressive pour expliquer comment la figure et l'œuvre de Christa Wolf se séparent de plus en plus, devient comment dire, un discours mitigé. En deuxième temps, le retour honteux vers le passé, que peut-être vous connaissez déjà, mais que je voudrais quand même approfondir. Et finalement, une sorte de stratégie qu'elle met en place pour essayer de faire face à cette honte qui, tout d'un coup, semble l'y attaquer. Alors, donc, une sorte de problématique, si j'ose dire, ce serait comment surmonter la honte face à une culpabilité fantôme. Culpabilité fantôme parce que c'est une culpabilité qui n'est pas reconnue par l'auteur et que je vais tâcher d'expliquer de façon plus profonde au fur et à mesure. Et pour parler donc d'abord de cette escission progressive qui s'opère chez Christa Wolf, je voudrais juste évoquer deux romans, ces deux premiers romans qui s'appellent Le ciel divisé et Trame d'enfance. Le premier roman, c'est un roman, on peut dire même prophétique, qui a été commencé avant même la construction du mur de Berlin, mais qui parle déjà de cette division qui va s'instaurer à la ville de Berlin et aussi du côté socialiste ou communiste. Face au côté occidental de l'Allemagne. En même temps, ce roman fut de Christa Wolf une sorte de best-seller ou une sorte de figure littéraire soudaine. Elle a été embrassée, elle a été hyper bien accueillie par le Parti socialiste qui a voulu faire d'elle une sorte d'écrivaine officielle du régime, qui lui a même proposé de devenir membre suppléante du parti. Et qui a voulu faire d'elle, de Christa Wolf, l'écrivaine, la figure paradigmatique de la littérature socialiste et communiste. Ce qu'elle a très, très tôt refusé, parce qu'elle s'opposait à la politique culturelle répressive du parti, du gouvernement, du Parti socialiste, ce qui fut déjà son premier, plutôt son deuxième, sa deuxième déception politique. Et je parle de deuxième parce que la première, et dont on parle justement, dont elle parle justement dans son prochain roman, Kindheit Musta, Trame d'enfance, ce fut le fait qu'elle elle a fait partie des jeunesses hitlériennes. Elle parle même de l'enthousiasme qu'elle éprouvait lorsque, petite enfant, elle fit partie de cette jeunesse hitlérienne. Elle essaie dans ce roman, Trame d'enfance, qu'elle commence à développer une sorte de poétique du dédoublement. Il y a deux voix, un « je » et un « tu », qui sont de toute façon la même personne, mais elle s'adresse à son « je » du passé, qui devient un « tu ». Et il y a donc cette sorte de double temporalité et double point de vue. Et c'est une sorte de double énonciation qui donnera lieu plus tard à ce que l'appelle l'authenticité subjective. Une sorte de poétique qui vise à inventer en toute vérité sur la base de sa propre expérience. C'est important cette ponctualisation parce que c'est la base du discours qu'il traînera par la suite. Et donc, je disais que Christa Wolf est très vite devenue une sorte de référence littéraire dans la République démocratique allemande, donc la partie orientale. Et elle a été une sorte de figure aussi reconnue dans le monde entier, je veux dire, jusqu'à ce qu'elle écrive, ou elle publie plutôt, en 1990, la nouvelle « Ce qui reste », « Was bleibt ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une petite nouvelle qui raconte juste une journée dans la vie d'une écrivaine surveillée par la Stasi. En l'occurrence, c'est elle-même. Ce qui reste contient de nombreuses références à l'isolement social et à la pression qui s'instaure chez cette écrivaine qui, petit à petit, commence à céder et à se comporter de façon à ce qu'elle respecte cette sorte de pression imposée par la surveillance. Et c'est à ce moment-là que la narratrice, l'écrivaine, commence à ressentir la honte de renoncer à ses principes. Alors, ça, c'est la nouvelle, mais le problème, entre guillemets, si j'ose dire, le scandale s'est déclenché justement à l'apparition de cette nouvelle qui a eu lieu peu après, quelques mois après la chute du mur de Berlin et qui a fait écho déjà au fait que Christa Wolf était plutôt réticente à la réunification allemande. Elle n'a jamais d'ailleurs parlé de réunification, elle parlait d'unification imposée, déjà parce que pour elle, il n'y avait pas deux pays, enfin un pays qui avait été séparé précédemment, c'était juste la République de Weimar, et donc il n'y avait pas deux Allemagnes à réunifier, c'était plutôt deux pays à unifier. Et donc elle était plutôt réticente à cette réunification, ce qui lui a déjà valu le mépris d'une grande partie de la critique littéraire allemande. Et le scandale se déclenche lorsqu'on découvre l'existence des dossiers de collaboration de Christa Wolf avec la Stasi. Je ne sais pas si vous connaissez, si je voulais que j'approfondisse un peu sur ce sujet. Ces dossiers sont anodins plutôt. Elle les a publiés d'elle-même. Ils contiennent ces dossiers, les rapports des lectures que Christa Wolf faisait parce qu'elle était à l'époque, elle travaillait pour une maison d'édition, la maison d'édition de son mari, par ailleurs, et elle faisait des rapports de lecture, des manuscrits qui lui arrivaient, et c'est ce qu'il donnait à la Stasi, qui a très vite laissé tomber et qui a considéré que ces rapports étaient anodins et sans aucun intérêt. N'empêche que l'existence la découverte de cette sorte de collaboration avec la Stasi ait déclenché une énorme campagne de dénigrement et d'humiliation de la critique et orientale et occidentale qui se sont acharnées contre cette figure. Ce qui a fait que Christa Wolf décide de s'exilier, entre guillemets, et de partir elle parle du paradis de l'artificiel. Elle est partie à l'endroit le plus éloigné de ses croyances ou de son positionnement politique. Elle est partie à Los Angeles, à la ville de Los Angeles, aux États-Unis. Et c'est là qu'elle entame l'écriture, le travail d'écriture du roman Médéa ou Médée en français, Stimme, voix au pluriel. Dans ce roman, elle réécrit le mythe de Médée, qu'on connaît tous, je crois, mais elle essaye justement de renverser et de... je ne trouve pas le mot en français, c'est ne pas guérir, c'est réconcilier ou donner la voix à Médée pour qu'elle puisse se défendre de cette image négative de la femme infanticide, fratricide que nous connaissons tous. Elle va donner voix à une pluralité de personnages de façon à ce que la vérité puisse être reconstituée. Ce qui est intéressant dans cette période qu'elle passe aux États-Unis, c'est qu'elle commence déjà aussi à entamer ou à préparer son dernier grand roman qui paraîtra en 2011, donc presque 20 ans plus tard, et qui traite déjà ce conflit entre mémoire et oubli. Je parle de conflit entre mémoire et oubli parce que jusqu'ici, Christa Wolf a toujours été le paradigme de l'écrivaine qui traite de façon sérieuse, complète, honnête, le passé. Elle a toujours tâché de réécrire ou de faire le portrait de son époque. Et quand elle découvre cette collaboration avec la Stasi, elle affirme très honnêtement avoir complètement oublié cet épisode ou cette époque de sa vie. Ce que les gens lui reprochent, elle qui se prend ou qui se tient pour l'écrivaine justement de la mémoire, l'écrivaine de la mémoire honnête, tout d'un coup, elle affirme avoir complètement oublié cet épisode, qui pourtant existe, et les preuves sont physiques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir ce conflit entre la mémoire et l'oubli, et qu'elle entame donc le travail ou la rédaction de son dernier roman, Stade der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, donc La Ville des Anges, ou Le Manteau de Dr. Freud. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre, et un original contient la deuxième partie du même en anglais. Et c'est important de souligner cette ambiguïté qui est l'ambiguïté qui recouvre tout le récit. C'est un roman très long, et c'est un roman qui, malgré sa tentative de réconciliation avec son passé, disons que ne fait que éviter les sujets dont il veut parler, les sujets qu'il veut traiter. Je ne sais pas s'il me reste encore assez de temps. Je vais essayer de me dépêcher. Disons que si j'ai intitulé, si j'ai appelé cette partie "Tomber du ciel, Know Thyself", c'est justement pour faire référence à cette double, à l'ambiguïté qui plane sur le récit à propos de la langue qui va lui permettre de se cacher ou de se protéger de cette honte publique qui s'est acharnée sur elle, de cette espèce de campagne d'humiliation publique qui tient à la dénigrer, à l'humilier. J'ai copié une longue citation, je m'excuse, mais ce que je voudrais juste souligner ou mettre en valeur dans cette citation, c'est le fait qu'elle affirme lors de son séjour aux États-Unis, où elle commence à petit à maîtriser un petit peu l'anglais, qu'elle trouve justement le refuge, elle trouve la paix qu'elle ne trouve pas ailleurs, justement dans la langue anglaise. Le fait de pouvoir s'exprimer dans une autre langue lui permet d'échapper aux sentiments intérieurs. Et l'exemple le plus clair, je crois, c'est au tout début quand elle dit que le fait de dire « I am ashamed » ne lui pose aucun problème, tandis que dire « ich schäme mich » lui fait déjà trembler ou transpirer. Et même plus tard, elle dit qu'elle peut tranquillement dire « it is painful » comme un mensonge même, tandis que le fait ou la pensée de devoir dire « est-ce que tu devais » en allemand lui fait déjà transpirer et l'angoisse. Donc je voulais justement souligner que c'est une stratégie, c'est la première stratégie qu'elle met en place pour lutter contre cette honte. Mais ce n'est pas la seule, et justement je voulais, pour mieux dépêcher, pour tâcher de finir plus rapidement, de faire référence déjà au titre, Le Manteau du Dr. Freud. Ça part à partir d'une anecdote assez banale. Elle raconte lors d'une soirée, elle a rencontré quelqu'un qui disait avoir récupéré et puis perdu le vrai manteau de Sigmund Freud, et qui lui faisait se sentir capable de tout, protéger contre tout. Il commence à développer, donc, à travailler à partir de cette image, de cette sorte de fétiche, si j'ose dire, le manteau qui nous protège, qui nous cache de l'extérieur et qu'on doit aussi renverser si on veut montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Le manteau qui est aussi le symbole de l'exhibitionniste. Et c'est justement ce que Christa Wolf essaye de faire tout le long du roman. Elle essaye de s'exprimer, de se montrer, de nous montrer la vérité, sa vérité intérieure, sans y arriver pour autant, la plupart du temps. D'ailleurs, elle met par exemple 200 pages avant de parler de ce qui la gêne, de cet épisode de la collaboration avec la Stasi. Constamment, elle fait des références aux épisodes honteux de son passé, mais à chaque fois, elle détourne le discours, elle commence à parler d'une autre chose qui n'a aucune importance, aucun rapport non plus, et c'est pour ça qu'on parlait d'une notion du labyrinthe. C'est une nouvelle façon de dénoncer. Elle essaie de reconstruire la mémoire, et pour ce faire, elle laisse libre cours à ses pensées, libre cours à ses paroles, ce qui fait que parfois le récit devient, je ne dirais pas incompréhensible ni difficile à suivre, juste un peu incohérent. Mais cette incohérence fait partie justement de cette espèce d'ouverture totale et absolue qu'elle tient, qu'elle vise à faire pour le public. Cette nouvelle énonciation ou cette nouvelle structure des labyrinthes n'est pas uniquement par rapport au contenu, c'est aussi au niveau de la forme. Le roman, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est important de signaler que c'est le dernier grand roman de Christa Wolf, elle est décédée peu après. Et le roman est aussi, du point de vue formel, construit à partir d'entrées des journaux intimes, de petits recueils ou extraits des journaux, des notations ou de petits mots qu'elle a notés dans son cahier personnel. C'est un peu un mélange, mais qui fait partie de cette sorte de tentative de reconstruction, d'arriver à reconstruire la mémoire. Alors, l'absence de réconciliation, le fait qu'elle échoue, ou qu'elle n'y arrive pas à reconstruire cette mémoire, ce n'est pas pour moi un échec littéraire, c'est plutôt une réussite stylistique, parce qu'elle réussit à proposer une nouvelle... une nouvelle forme d'énonciation qui laisse la place ouverte au lecteur. Disons qu'elle ne propose aucune réponse, elle se préoccupe plutôt de proposer ou de trouver les bonnes questions que nous, les lecteurs, devrons tâcher de répondre. Et ce récit, ce roman, est pour la première fois truffé d'éléments autobiographiques, des références autobiographiques, pas cachées, à la différence des œuvres précédentes, et c'est à mon avis où on peut interpréter cette surabondance de pistes autobiographiques comme une sorte de dispositif littéraire qui viendrait souligner le fait que l'enjeu principal, encore une fois, c'est celui qui produit la honte existentielle de cette œuvre, c'est-à-dire la perception publique de la narratrice. Elle se voit jugée et condamnée par la critique ou par l'opinion publique allemande, surtout, et c'est pour ça que je parlais d'une culpabilité fantôme. Et les jugements ont eu lieu, la condamnation aussi, mais tout de même, elle ne reconnaît pas cette culpabilité puisqu'elle insiste, elle a oublié cet épisode qui constitue sa faute. Donc, c'est elle-même qui le dit dans le texte, elle ne ressent aucune culpabilité, elle ne se sent pas coupable. Et c'est justement ce qui lui fait ressentir et éprouver une double honte, celle de la collaboration et celle de l'oubli. Et combien de temps il me reste? Je vais devoir finir très tôt. Donc, juste pour conclure, il s'agirait, dans le cas de ce roman qui vient clôturer la carrière littéraire de Christa Wolf, il s'agirait donc de mettre en valeur l'utilité de l'écriture littéraire en montrant que la crise de honte qui isole la narratrice est le résultat non seulement d'une faute individuelle, mais aussi des circonstances historiques et politiques que le lecteur doit également tâcher d'assimiler. Pour autant, si le lecteur cherche des réponses chez Christa Wolf, il répond de façon très, très claire, très nette, avec la dernière phrase du roman qui est « Je ne sais pas ». Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.